Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été télépréparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria Brand, Iso Tsikar et Thibaut Affringue. À la réalisation, Alexandra Candilonguet. À la console, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Parmi les grandes interrogations soulevées par l'épidémie de coronavirus, il en est une qui touche directement le quotidien de millions de Français. Le télétravail, expérimenté à grande échelle pendant le confinement, va-t-il se généraliser ? Cette pratique, restée jusque-là marginale en France, a été largement saluée par les salariés et par leurs dirigeants. Pourtant, le télétravail est-il vraiment un progrès ? La crise n'a-t-elle pas aussi révélé ses limites ? Et quelles sont les règles qui doivent venir l'encadrer ? Autant de questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Le télétravail est-il l'avenir de l'entreprise ? Nous allons en parler avec François Dupuis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des organisations, auteur de La faillite de la pensée managériale paru au Seuil il y a quelques années. Avec nous également Anne Sall. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études germaniques à Sorbonne Université. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et d'abord, depuis quand parle-t-on de télétravail pour désigner le travail à distance, François Dupuis ?
Ça fait quelques années déjà qu'on en parle, mais comme vous l'avez dit dans votre introduction, en France au moins, ça n'est pas quelque chose qui est très répandu. Néanmoins, il y a une chose que l'on peut tout de suite signaler, c'est que un certain nombre d'entreprises se préparaient depuis un certain temps à des épisodes de télétravail plus ou moins forcés, alors que d'autres n'avaient rien prévu en la matière, et du point de vue de l'acceptation de la chose, ça a fait une grande différence pendant cette période.
On va voir effectivement que les entreprises ont été plus ou moins préparées, mais d'abord, Anne Sall, un premier mot sur cette expression de télétravail, sur les circonstances peut-être au cours desquelles elle a été forgée.
Alors le problème déjà à mon avis, c'est que le terme de télétravail n'est en réalité pas si clair que ça, même s'il y a une définition effectivement dans le code du travail français qu'on retrouve évidemment en Europe, à savoir déjà qu'est-ce qu'on entend par télétravail. Est-ce qu'une personne qui va faire une partie de son travail chez elle, mais dans des horaires qui sont tout simplement pas pris en considération, c'est du télétravail ou pas? On a un certain flou de ce côté-là, ce qui va d'ailleurs se retrouver dans les statistiques, qui sont des statistiques pas toujours comparables de la réalité du télétravail dans les différents pays, ce qui veut dire qu'en réalité, du télétravail existait déjà depuis longtemps, mais pas forcément pris en considération et pas forcément reconnu comme tel.
C'est assez frappant, effectivement, de voir que les chiffres sont extrêmement différents selon les études. En préparant cette émission, je ne savais pas très bien, effectivement, sur quels chiffres m'appuyer. Par exemple, je suis tombée sur les chiffres d'avant le confinement, et parfois c'était 3%, parfois 10%, parfois 20% de salariés qui travaillaient au moins un jour par semaine. Anne Sall.
Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, on se retrouve avec des chiffres qui sont vraiment très très différents. Effectivement, 3% l'étude de la DARES par exemple, 17% une autre étude qui avait été réalisée à la demande du gouvernement, parce que la question c'est est-ce qu'on va mettre dedans des personnes qui sont au minimum un jour par semaine en télétravail ? Est-ce qu'on va prendre en considération des personnes qui le sont que pour quelques heures par semaine ? Comment est-ce qu'on va prendre en considération des métiers comme les enseignants, qui sont bien évidemment dans des établissements scolaires ou universitaires, mais qui une partie du temps travaillent de chez eux pour préparer les cours par exemple, parce qu'ils n'ont pas de bureau dans les établissements. On a tout un ensemble de catégories qui ne sont pas clairement définies comme télétravail ou pas télétravail. Et effectivement, en Allemagne, c'est très clair. On a eu une étude l'année dernière qui indiquait qu'ils mettaient dedans absolument tout, c'est-à-dire y compris le nomadisme, y compris donc les personnes qui sont en télétravail, c'est-à-dire ailleurs que chez elles, hein, par exemple chez le client, y compris des personnes qui vont travailler le soir une ou deux heures pour compléter leur journée de travail, ce qu'on a moins souvent en France. En France, en général, quelqu'un qui fait ses 35 heures ou 40 heures au bureau et qui va retravailler deux heures le soir, ça sera pas considéré comme en télétravail.
Et ce qui explique en partie que le pourcentage de télétravailleurs en Allemagne soit plus élevé, on va voir dans un instant qu'il y a d'autres raisons. Mais d'abord, on peut dire que les deux mois de confinement ont permis d'expérimenter le télétravail à grande échelle. Et vous le disiez, François Dupuis, certaines entreprises ont donc dû s'adapter du jour au lendemain. Écoutez à ce propos la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, c'était le 6 mai dernier.
Aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui travaillent en télétravail. Pour beaucoup, c'est une découverte.
et en plus dans des conditions très particulières. Donc il y a des entreprises qui avaient déjà des accords négociés ou des chartes sur le télétravail, et où là ça se passe plutôt bien parce que c'est plus de salariés qui sont concernés, et tous les jours de la semaine au lieu d'un ou deux jours. Mais on savait déjà comment faire. Et puis il y a des entreprises et des salariés pour lesquels c'est entièrement nouveau. Et c'est vrai que le télétravail est fait quelquefois dans des conditions aujourd'hui qui sont pas tout à fait le télétravail classique. Quand vous avez les enfants en même temps qui courent partout, on est d'accord, c'est du télétravail dégradé qui ne peut pas durer indéfiniment. Mais il va pas non plus durer indéfiniment. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le télétravail et qui voient un certain intérêt en se disant, ben voilà, moi j'ai peut-être pas envie de passer 2 heures dans les transports par jour, je me concentre mieux, donc un équilibre entre les deux, le présentiel et le télétravail, pourquoi pas. Et depuis les ordonnances de 2017, c'est un droit.
François Dupuis, en quoi le fait que certaines entreprises étaient mieux préparées que d'autres au télétravail a permis que ce travail à distance se passe mieux pour certains salariés que pour d'autres ?
Bon, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que le fait d'avoir été préparé au télétravail a permis à toute une série de gens de gérer les problèmes qui sont périphériques à ce télétravail. J'entendais la ministre tout à l'heure qui parlait des enfants qui couraient partout. Lorsque vous êtes habitué ou vous avez été habitué au télétravail, vous savez organiser votre travail, et y compris les visioconférences ou les conférences téléphoniques, par rapport à des horaires bien précis, et vous savez gérer vos enfants par rapport à ces horaires. De la même façon, un type de préparation qui a existé et qui a facilité les choses, c'est la technologie. C'est-à-dire que vous pouvez, comme vous êtes habitué au télétravail, avoir une technologie qui est plus adaptée que votre simple ordinateur, où vous ne savez pas comment on utilise tel ou tel système de visioconférence. Donc c'est ça qui a permis que ces entreprises-là plongent plus rapidement, mieux et plus efficacement dans le télétravail. De la même façon, vous voyez, la ministre souligne un point qui a été extrêmement important, qui est le temps gagné sur le temps de transport. Eh bien, de ce point de vue-là, que vous ayez gagné une heure et demie, 2 heures par rapport au temps de transport, ça vous a permis de réorganiser complètement votre journée de travail. Vous saviez comment faire. Si vous n'aviez jamais rien préparé, vous êtes trouvé brutalement dans une situation différente, et qui veut dire concrètement un certain nombre de choses pénalisantes. Par exemple, vous ne savez pas où, quand vous n'êtes pas au votre bureau, vous pouvez aller chercher tel renseignement, vous pouvez vous procurer tel document, vous pouvez aborder telle ou telle personne. Bref, ça a été rendu beaucoup plus pénible. Ça a fait une différence, qui est une différence fondamentale dans l'appréhension de cette nouvelle façon de travailler.
Et qui étaient les télétravailleurs pendant ce confinement, François Dupuis ? Ce sont très majoritairement des cadres, mais ce sont aussi des employés et même des ouvriers.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu découvrir au fur et à mesure de cette période que beaucoup plus de salariés qu'on ne le pensait précédemment pouvait être concerné par le télétravail. Parce que le fait que les cadres télétravail, ils font partie de ceux dont vous parliez précédemment, en disant, ben, eux, ils ont, par exemple, 1 ou 2 journées de télétravail, il y a un accord là-dessus, et ils peuvent le faire. Mais petit à petit, on a découvert que d'autres salariés, alors comme vous le dites, des employés, mais même des ouvriers, ou ce que l'on appelle, par exemple, les makers, ceux qui sont ceux qui fabriquent des choses avec des imprimantes 3D, ben, pouvaient travailler beaucoup plus facilement qu'on ne l'avait pensé au début. Et du point de vue des entreprises et de l'avenir, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça va amener les entreprises à réfléchir sur les populations qu'elles peuvent mettre en télétravail, et à partir de ces populations qu'elles peuvent mettre en télétravail, ça va les amener à réfléchir à leur parc immobilier. Et est-ce que je termine là-dessus, si elles réfléchissent à leur parc immobilier, eh bien le télétravail va avoir des conséquences induites sur toute une série d'autres activités qui sont périphériques au fonctionnement des entreprises.
Bien sûr, alors 50% des salariés en télétravail ont déclaré que ça avait été une expérience assez satisfaisante, selon l'enquête menée par l'INSEE et la DARES. Comment expliquer ce plébiscite, Anne Sall ?
Alors, je pense effectivement que il y a eu, alors déjà, un certain nombre de points qui étaient pris en considération auparavant, comme effectivement le gain sur le temps de trajet. C'est ce que a dit François Dupuis à très juste titre. C'est même très visiblement, en tout cas par rapport à l'enquête que j'ai faite l'année dernière, l'élément qui arrive vraiment en tête pour les Français qui pratiquent le télétravail. En Allemagne, c'est un élément, mais c'est pas le seul. En Allemagne, il y a vraiment un point important également de la question de la conciliation travail-famille, donc de pouvoir être disponible, présent simplement pour les enfants. Là où ça, par exemple, en France, cela apparaissait moins. Effectivement, c'est posé la question de la gestion avec enfants, mais comme l'a dit François Dupuis, c'est pas forcément une mauvaise expérience. C'est souvent une question d'organisation. Donc, certainement, certaines expériences en confinement aussi ont pu permettre de se rendre compte que des choses étaient possibles qu'on n'imaginait pas forcément auparavant, d'un point de vue technique également, c'est-à-dire que la communication pouvait se faire, que les réunions pouvaient se faire, la coopération avec les collègues hors présentiel pouvait également fonctionner. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont apparus dont on n'avait pas nécessairement conscience. Et en France, ce qui me frappe aussi, c'est que dans l'enquête de l'année dernière, quand il est question de conciliation travail-famille, la question du télétravail ne vient pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne vient pas à l'esprit des personnes interrogées que ça pourrait être une solution. On va chercher d'autres types de solutions, par exemple du temps partiel, se mettre à son compte pour pouvoir justement d'ailleurs travailler de la maison. Mais l'idée de solliciter du télétravail, d'essayer de développer cette forme-là, n'apparaissait pas.
Je pense que parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y en a un certain nombre qui, à l'inverse, ont été un petit peu traumatisés par le fait de devoir télétravailler et gérer des enfants en même temps toute la journée.
Certainement, et comme l'a dit François Dupuis, dans un contexte où ça n'avait pas été expérimenté auparavant. Donc effectivement, la différence entre ceux qui connaissaient déjà, donc les entreprises qui avaient déjà commencé à mettre le télétravail en place, ce qui voulait dire également que le matériel était disponible. Par rapport à d'autres entreprises qui n'ont pas préparé, souvent, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de cadre. Donc tout ça, effectivement, était beaucoup plus compliqué.
Il y a aussi une volonté de s'affranchir d'une ambiance de travail qui peut être étouffante à l'heure de la modernisation managériale qui a changé le rapport entre employés et managers, François Dupuis.
D'abord, il faut bien comprendre que nous n'avons pas pour le moment le recul nécessaire pour juger de ce qui s'est réellement passé pendant cette période et sur où va aller l'enthousiasme ou le relatif enthousiasme qu'il y a aujourd'hui. Je voudrais donc noter d'abord qu'on ne peut pas séparer l'expérience du confinement en ce moment avec l'expérience du télétravail. Ce qui est extrêmement important à se rendre compte, c'est que le confinement en France a été globalement et même très globalement bien vécu. Je vais vous en donner un indicateur dans une étude que j'ai faite sur les Français face au confinement, et vous allez voir. Les médias avaient véhiculé une image du confinement qui était une image terrifiante de cette famille avec deux, trois enfants dans un tout petit logement, et tout le monde finissait par s'énerver, voire à se taper sur la figure, etc. Moi, je ne les ai pas rencontrés dans mon étude, mais en revanche, tous les gens que j'ai interviewés sur un échantillon raisonné, donc comprenant toutes les catégories socio-professionnelles, tous m'ont dit « moi j'ai de la chance ». Alors tout le monde a eu de la chance. Et quand je leur demandais « mais qu'est-ce que ça veut dire que vous avez eu de la chance ?»« Mais moi je ne suis pas cette famille avec trois enfants qui se tapent dessus toute la journée ». Donc chacun ayant le sentiment qu'il avait de la chance, le confinement a été assez bien vécu. Et du coup, vous pouvez rapprocher ce bien-vivre du confinement du bien-vivre du télétravail.
Mais tout le monde n'a pas bien vécu ce télétravail, François Dupuis. Il semblerait que les jeunes, par exemple, les plus jeunes, en soient moins adeptes.
Écoutez, c'est comme dans toute réalité humaine, on peut pas dire que tout le monde a bien vécu quelque chose. Moi, j'essaie de vous dire que globalement, ça a été bien vécu. Je crois que c'est ça qui est important. Ça a été une découverte. Ça a été pour bon nombre de gens. Il y avait ceux qui avaient fait du télétravail avant. Ça a été une découverte, et cette découverte-là a été positive. Alors, il faut pas non plus être naïf. Quand vous posez la question aujourd'hui aux gens, mais dans le fond, dans l'avenir, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Personne ne va vous répondre, j'aimerais continuer uniquement en télétravail. Personne ne vous dit ça. Les gens vous disent, très bien, eh bien, je voudrais avoir une partie de télétravail et une partie de présentiel. Alors, pourquoi le présentiel? Mais parce que le présentiel, c'est ce qui permet de maintenir de la sociabilité avec les collègues. Et si vous me dites que ce sont les jeunes qui ont le plus envie de cette sociabilité au travail, je n'en serais absolument pas surpris.
Avec le confinement, la perception du télétravail semble en tout cas avoir changé. Il y avait pourtant des inquiétudes du côté des employés, mais aussi des employeurs, François Dupuis.
Mais bien sûr, d'ailleurs, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être un peu vous surprendre. Dire qu'il y avait des inquiétudes, nous vivons dans un pays où il n'y a que de l'inquiétude. Donc nous sommes le pays le plus pessimiste, le plus inquiet, le plus en colère, le plus tout ce que vous voulez. Donc dès que vous proposez quelque chose de nouveau aux gens, par définition, on est inquiet. On est inquiet par principe. Et donc ensuite, on fait une découverte, et cette découverte, à un moment donné, peut compenser l'inquiétude que l'on avait initialement.
Alors écoutons justement les témoignages de télétravailleurs en Allemagne, extraits d'un reportage diffusé sur Arte au mois de janvier.
L'inconvénient du télétravail, c'est que ça demande une discipline de fer. Il faut s'y mettre et travailler vraiment, ne rien repousser à plus tard. Je dois clairement définir mes plages de travail et ne pas me dire, ces emails, je les écrirai plus tard, je m'y remettrai à 11h ce soir.
Télétravailler ne veut pas dire travailler sans limite et que la réglementation sur le temps de travail ne s'applique plus. L'aménagement du temps de travail vaut évidemment aussi pour le travail à distance. Le principe fondamental, c'est la confiance. Je ne vois pas si elle travaille vraiment, bien sûr, il n'y a pas de caméra dans son bureau, mais c'est le résultat qui compte.
On entend bien dans cet extrait, Anne Sall, que le rapport au télétravail est différent en Allemagne. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, effectivement, une différence, c'est quand même que le télétravail était plus implanté en Allemagne depuis plus longtemps déjà. On a près de 40% des entreprises en Allemagne qui le pratiquent de manière régulière ou ponctuelle, ce qui est quand même assez important. Donc, on a vraiment une réalité du télétravail chez les hommes comme chez les femmes. Ça donne des profils d'ailleurs assez divers de télétravail. On va avoir effectivement le profil de la conciliation. On va avoir ceux qui vont plutôt le pratiquer pour une question de distance entre le domicile et le lieu de travail, en particulier si l'employeur est vraiment loin, c'est-à-dire basé carrément ailleurs. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve en Allemagne, qu'on trouve d'ailleurs pour part aussi en France. On a une pratique en Allemagne aussi du télétravail en cas d'imprévu. Et ça, c'est beaucoup moins le cas en France où, au contraire, j'ai eu des répondants qui m'ont dit, même dans l'épisode de forte chute de neige de l'année dernière, on leur a pas permis de d'être en télétravail pour les 2 ou 3 jours parce qu'il y avait pas de cadre, parce que c'était pas prévu. Alors par contre, effectivement, j'ai beaucoup moins eu de retours sur cette question de l'organisation des horaires. Parce qu'au contraire, ça, c'est considéré comme l'un des grands atouts. C'est-à-dire le fait de pouvoir s'organiser comme on veut, donc éventuellement l'après-midi s'arrêter parce qu'on va s'occuper des enfants et s'y remettre le soir parce que entre-temps le papa est arrivé ou une fois qu'ils sont couchés, etc. Donc justement, le fait de prendre ces distances d'une organisation classique du temps de travail, c'est perçu comme l'un des grands atouts du télétravail en Allemagne. Et on va également avoir cette autre forme qui va être « je profite de ce que les enfants sont à l'école et je travaille à fond, donc pas de pause, même pas de pause déjeuner. Donc là, ça va être vraiment le contraire. On va tasser le plus possible pour avoir avancé au maximum avant le retour des enfants. Mais toujours par rapport à cette question de discipline évoquée dans l'extrait, en fait, les constats en France comme en Allemagne d'ailleurs, c'est plutôt le contraire, c'est que les personnes en télétravail ont tendance à travailler plus. Donc le problème, ce serait même moins la discipline que la question de cette frontière entre vie privée et vie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve par contre dans les deux pays, qui est que du coup, la frontière devient assez floue et on a tendance à s'y remettre, à avoir du mal à s'arrêter vraiment le soir complètement, à respecter les temps de pause qu'on aurait eu au travail, ne serait-ce que parce que les collègues passent pour proposer un café. Donc tout ça, ça tombe et effectivement...
Mais est-ce que si les réticences sont moins fortes en Allemagne, c'est aussi parce que la hiérarchie y est beaucoup plus horizontale qu'en France?
Alors ça, c'est évident que oui, cela joue, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un rapport tout à fait différent à la hiérarchie qui implique en particulier beaucoup plus d'autonomisation et beaucoup plus de délégation du travail. Donc on se voit confier des tâches. Des tâches, ça peut être sur non pas simplement une journée, mais une semaine, plusieurs semaines avant de rendre son dossier, de rendre le travail effectué. Donc beaucoup plus de possibilité de travailler en toute autonomie. Et ce qui est d'ailleurs frappant lorsqu'on interroge les entreprises sur les obstacles au télétravail, ça va pas du tout être la question du management, ça va être uniquement lorsque la nature de l'activité ne le permet pas. Et ça, c'est l'obstacle qui est cité vraiment à 90%, et les autres obstacles arrivent très très loin derrière, par exemple la protection des données, la coopération avec les collègues, etc. On a vraiment cette perception du management également de l'employeur, que l'obstacle principal, c'est effectivement qu'il y a certains types d'activités qui ne s'y prêtent pas. Mais passé ça, on n'est pas dans cette logique comme en France du N plus 1, N plus 2, pas du tout.
Alors le télétravail va-t-il devenir la règle plutôt que l'exception ? De nombreuses entreprises comme Twitter, Google et Facebook ont d'ores et déjà annoncé vouloir le généraliser au moins quelques années. Quels sont les avantages recherchés par les entreprises, François Dupuis ?
Il y en a un qui est absolument évident, hein. C'est de réduire les coûts immobiliers. Alors forcément, il y avait déjà eu beaucoup de tentatives en la matière pour réduire cette fameuse empreinte immobilière. Il y avait les open space qui effectivement sont moins consommateurs de place. Il y avait aussi, vous savez, la tentative de ces bureaux, ce qu'on appelle les bureaux disponibles, c'est-à-dire vous arrivez dans l'entreprise, vous prenez comme faisait Accenture, dans le temps, vous prenez votre casier, vous allez vous installer à un bureau libre, etc. Certaines entreprises considérant que le travail principal d'un consultant, par exemple, doit se faire chez le client, il ne doit pas se faire sur le lieu même de l'entreprise. Mais avec le télétravail, ça devient quelque chose de beaucoup plus important, puisque là, vous avez, pour les entreprises qui ont déclaré vouloir le faire, on verra si elles le feront dans l'avenir, vous avez une simple réduction drastique, importante, de l'espace qui va être occupé.
Et c'est peut-être ce qui explique aussi que PSA, parmi les entreprises françaises, a ouvert la voie.
We are ready to make...
Nous sommes prêts à faire du télétravail la référence pour les activités qui ne sont pas liées directement à la production. La nouvelle référence. Cela se traduira par une présence sur place d'un jour à un jour et demi par semaine en moyenne. C'est un projet qui favorise l'agilité, l'efficacité et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les entreprises françaises comme PSA sont elles aussi en train de se convertir au télétravail généralisé, Anne Sall ?
Ah non, je pense pas du tout qu'on va arriver à une généralisation dans le sens que on a quand même une culture du contact. C'est pas simplement la notion de culture de la présence physique qui est encore un autre sujet, mais qui est fortement lié évidemment. C'est aussi quand même la volonté de maintenir des contacts en présence des collègues et pas simplement via un écran. Et ça reste quand même important. C'est assez frappant, par exemple, côté Allemagne, que effectivement les célibataires sans enfants, ce sont ceux qui pratiquent le moins le télétravail et qui ne sont d'ailleurs pas désireux de le pratiquer parce que pour eux, c'est important de rencontrer les collègues. Et ça l'est également en France. Ça fait partie des éléments qui avaient été cités, d'ailleurs, justement, comme inconvénients du télétravail. On est sur des réflexions autour de modèles qui impliqueraient, par exemple, des présences, c'est déjà le cas en Allemagne, obligatoires sur deux jours, balisés par semaine, où tout le monde doit être présent, de manière à faciliter, d'ailleurs, l'organisation de réunions, mais également à maintenir le contact. Et puis, il y a toujours cette réflexion derrière de, l'attachement à l'identité de l'entreprise. Il y a toujours ça fait partie des craintes d'entreprise, que si on est vraiment entièrement télétravail, on n'a pas la même identification à l'entreprise. Ce qui fait d'ailleurs qu'en Allemagne, par exemple, on n'est pas autorisé à faire du télétravail tout de suite en arrivant. Et il y a d'ailleurs des entreprises en Allemagne qui l'interdisent complètement. Ça n'est absolument pas du tout partout et ça n'est pas non plus un phénomène de masse. Ça va sûrement se développer. Je partage complètement le point de vue de François Dupuis sur la question notamment immobilière. Ça, c'est évident. Ce qui est tout à fait frappant quand on prend effectivement les études en Allemagne sur les entreprises, sur ce qu'elles pensent du télétravail, les avantages perçus. Je vais citer les trois premiers. C'est vraiment très parlant. C'est la flexibilité pour les salariés. Deuxièmement, une meilleure conciliation travail-famille. Troisièmement, une meilleure disponibilité des salariés. Arrive seulement en quatrième le gain de productivité, ce qui veut dire que les premiers avantages perçus par l'entreprise, c'est ce qui va être bénéfique aux salariés. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y a une recherche aussi d'attractivité auprès des salariés. Ça, c'est un argument important. Et donc, d'avoir des salariés qui vont être satisfaits de leurs conditions de travail, ce qui fait que, à contrario, j'ai une répondante en Allemagne qui me dit, il n'y a pas d'accès au télétravail, je ne vais pas faire long feu dans cette entreprise.
C'est aussi ce que dit le groupe PSA, PSA qui dit vouloir approcher la neutralité carbone, donc il y a l'argument environnemental, et améliorer la qualité de vie des salariés. Ce sont les premiers arguments mis en avant, François Dupuis, et non pas l'argument économique.
Oui, alors je serai, moi, voyez-vous, un petit peu plus prudent par rapport à ça, parce que si l'argument principal est l'argument économique, il est sûr que c'est pas celui que l'on va fournir en premier. J'ai cité tout à l'heure le gain immobilier. Mais il y a un deuxième gain quand même qui a été cité aussi tout à l'heure. C'est que le constat que l'on peut faire pour le moment, et ensuite avec l'adaptation que les gens feront au télétravail, ça changera peut-être. Mais en télétravail, on travaille plus qu'en travail présentiel. Et les entreprises l'ont tout à fait compris. Et on comprend très bien quel en est le mécanisme. Quand moi j'ai à décrire ce qui s'est passé dans cette période avec le couple confinement-télétravail, eh bien, ce qui revient peut-être le plus, c'est l'idée de temps retrouvé. C'est-à-dire, j'ai retrouvé mon temps. Et comme je suis maître de mon temps, je subis beaucoup moins le travail que je ne le subissais précédemment. Et subissant beaucoup moins le travail, alors à ce moment-là, ben, je m'y adonne dans des conditions qui sont des conditions beaucoup plus favorables. Donc il est probable que la productivité du télétravail est meilleure que la productivité du travail en présentiel. En revanche, et vous avez souligné la question tout à l'heure, ça pose un problème de management, c'est-à-dire comment vous managez des gens qui sont en télétravail, parce que c'est une vraie question qui se pose à un certain nombre d'entreprises dont vous avez souligné, en ce qui concerne la France, le caractère beaucoup plus bureaucratique. Et c'est vrai que le télétravail a tendance à effacer le caractère bureaucratique des organisations. Et ça, alors, on pourrait considérer que c'est un progrès remarquable.
On va voir effectivement dans un instant comment le télétravail doit peut-être entraîner une réorganisation du management et du travail en général au sein des entreprises. Et on va voir également quelles sont les limites du télétravail, comment est-ce qu'on pourrait mieux encadrer cette pratique. On en parle dans un instant.
De Sébastien Tellier sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Anne Sall et François Dupuis sont toujours avec nous pour parler des splendeurs et des misères du télétravail. Alors même s'il s'étend à d'autres catégories, comme on l'a vu, le télétravail reste majoritairement l'apanage des cadres. C'est une pratique, François Dupuis, dont beaucoup d'actifs sont encore exclus.
Par définition, sont exclus la plus grande partie des actifs qui concourent à de la production physique. On pourrait dire ça comme ça. Alors, dans la production physique, on ne met pas que l'industrie. Dans la production physique, il y a tous les gens qui vendent quelque chose, la grande distribution. Enfin, il y a toute une série d'activités qui relèvent de la production physique. Mais là où le télétravail va se répandre le plus fort, c'est là où, effectivement, cette production physique n'existe pas, et comme je vous le disais tout à l'heure, les secteurs dans lesquels la production physique peut même être gérée à distance vont être progressivement découverts. Et alors, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec Anne Sall pour dire que la généralisation du télétravail, non, ça n'arrivera pas, ça ne viendra pas le mode de travail dominant, etc., du moins pas dans un futur proche. En revanche, la découverte que beaucoup plus de gens peuvent le pratiquer et des avantages de ce télétravail et de ce que ça implique sur le fonctionnement des organisations, alors oui, c'est quelque chose que petit à petit on va découvrir et qui fera d'ailleurs évoluer d'une façon positive les modes de fonctionnement que nous avons aujourd'hui dans nos entreprises française.
Mais est-ce qu'il ne faut pas considérer le télétravail comme un privilège, Anne Sall? Je donnerai juste deux chiffres. 46% des catégories sociales supérieures ont pu travailler de chez elles et ça n'a été le cas que pour 18% des personnes qui occupent des emplois moins qualifiés.
Alors effectivement, on a une différence importante entre cadres et non-cadres. Hein. Ça, les statistiques sont très très claires à ce sujet, tout simplement parce que les cadres, ont souvent le matériel, surtout dans cette période de confinement, on l'a pas forcément reçu, mis à disposition par les entreprises. En tout cas, dans ce contexte de confinement, ça a été quand même une situation un petit peu particulière où tout le monde, on n'était pas égaux, les Français n'étaient pas égaux en termes de d'outils pour pouvoir pratiquer effectivement le télétravail.
Donc ça, c'est d'outils et de connexion, parce qu'il ne faudrait pas oublier la fracture numérique.
C'est ce que j'entendais par là, hein. J'entendais les deux, absolument. Le matériel et la connexion, mais c'est aussi lié tout simplement à la nature même de l'activité, puisque les cadres supérieurs sont souvent dans des activités d'encadrement qui peuvent donc se faire à distance, là où effectivement des personnes qui n'auront pas le même niveau de qualification vont se retrouver davantage, par exemple, effectivement, on l'a dit, la production, la vente, l'accueil. Et effectivement, on a certains secteurs qui, pour le moment, ne se prêtent pas au télétravail, tout ce qui implique du contact avec une clientèle, par exemple, les soins, donc tout ce qui est médical, les services à la personne, l'accueil, la production, les outils technologiques. D'ailleurs, là, c'est pas seulement des personnes éventuellement moins qualifiées. On va trouver également des ingénieurs qui ne peuvent pas travailler sans accès au matériel et tout ce qui est données sensibles. Donc ça, je dirais que c'est les trois grands domaines où effectivement l'enquête a clairement traduit des difficultés de pouvoir pratiquer du télétravail. Je pense aussi que dans la mesure où c'est quand même quelque chose d'encore relativement récent, on a aussi des milieux dans lesquels la question ne s'est tout simplement pas posée. C'est-à-dire qu'effectivement, les entretiens montrent clairement que beaucoup de personnes, en particulier moins qualifiées, ne se posaient même pas la question de la possibilité du télétravail. Et c'est particulièrement vrai en France.
Et ce que l'on constate aussi, c'est que ceux ou plutôt celles qui ne peuvent télétravailler parce que leur travail ne leur permet pas sont majoritairement des femmes. Anne Sall, est-ce qu'il n'y a pas un renforcement de ces inégalités de genre dans le monde du travail avec le télétravail?
Alors en fait, on a une situation très contrastée puisqu'en Allemagne, c'est le contraire. C'est quand même une pratique plus féminine que masculine. Il y a davantage de demandes des femmes de pratiquer le télétravail que des hommes. Et en France, on constate en tout cas que ce sont davantage les hommes qui pratiquent le télétravail que les femmes. Effectivement, ça soulève des interrogations. Je pense qu'un élément de réponse, en tout cas, c'est qu'en Allemagne, c'est un outil de conciliation. En France, ça l'est beaucoup moins. J'ai effectivement un répondant qui est un homme, pour le coup, qui est un père qui élève seul ses enfants et qui, lui, a choisi un emploi à 100% télétravail pour être en mesure de les prendre en charge et qui, lui-même, perçoit à quel point il constitue une exception en France, à quel point ça n'est pas du tout une pratique. Et effectivement, il est très souvent interrogé sur sa pratique professionnelle parce que c'est tout à fait inattendu. Là où en France, j'ai surtout des cas de personnes qui ont fait ce choix pour des questions de trajet. J'ai une personne qui me dit on n'est pas prioritaire si on habite à côté. C'est pas la question de la configuration familiale qui compte pour être prioritaire. Ce qui compte, c'est le temps de trajet. Donc on n'est pas du tout sur la même approche et effectivement, dès lors qu'on est sur des considérations de conciliation familiale, conciliation travail-famille, on est beaucoup plus sur des questions féminines, hein, c'est malheureusement encore le cas, et effectivement dès lors qu'on est sur des questions de temps de trajet, c'est beaucoup plus neutre au regard du sexe. Ce qui me frappe aussi, c'est que lorsqu'on prend des études faites en France, on ne se penche pas sur la question homme-femme.
Ce qui a été souligné quand même par un certain nombre de chercheurs et surtout de chercheuses, c'est que pour les femmes, télétravail rimait souvent avec augmentation de la charge mentale. C'est ce qui a pu être constaté pendant le confinement, Anne Sall.
Alors oui et non, parce que comme je disais, il va y avoir ensuite une pratique des horaires qui ne sera pas la même effectivement. Dès lors qu'on parle de conciliation, ça va être par exemple s'arrêter travailler en milieu de journée, reprendre le soir, travailler donc je dirais dans les trous quand c'est possible. Donc c'est un outil de conciliation. D'ailleurs, ce qui est tout à fait frappant, c'est que le niveau de satisfaction est élevé. D'ailleurs, chez les hommes comme chez les femmes. Même s'ils reconnaissent qu'ils travaillent plus, parce que ça, effectivement, d'ailleurs, les études le montrent, le temps de travail est augmenté en cas de télétravail, d'où d'ailleurs, effectivement, le gain de productivité pour l'entreprise. Effectivement, ça ne fait aucun doute. Malgré cette situation-là, ce sont des personnes qui sont satisfaites de ces arrangements.
Les télétravailleurs ont été parfois confrontés à des situations ubuesques qui ont été largement détournées sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'en écouter un petit florilège.
Allô Cécile, ça va? T'as fait un malaise? Hein? Non mais en fait comme je voyais que t'étais inactive, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas un problème. Ah, tu prenais juste un café? Eh ben, prends-en un cours la prochaine fois parce que sinon le logiciel il aime pas.
Bernard, je sais que t'es dans le Jura, ta connexion c'est compliqué, est-ce que ça va mieux? Bernard, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ?
Allô, Fred ? Ouais, c'était juste pour te dire qu'à la fin de la saison 2, Raquel, elle sortait avec El Profesor. Voilà, donc tu peux te remettre à travailler maintenant.
Voilà, je me suis organisé un petit espace de travail, mon ordinateur, mon téléphone fixe. Oui, monsieur Mandrin ? Puis je me suis acheté de la bouffe dégueulasse pour me rappeler la cantine.
Sylvie n'est pas encore connectée, je crois, hein, donc on l'attend. Tout va bien ? Alors là, je ne t'entends pas, il faut activer le micro. Le micro ! Ah, voilà, mais je ne te vois plus là. Ah, oh là là, on ne le voit plus. Bon.
Cette nouvelle organisation, elle plaît beaucoup à la direction. Parce qu'avant, quand ils essayaient de joindre des collaborateurs le soir ou le week-end, bah, ils répondaient pas comme ils étaient plus au bureau. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuses, vu qu'ils vivent dedans.
Le télétravail qui brouille les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle, voilà ce qui ressort de nombreux sketchs diffusés à la télévision ou sur les réseaux sociaux. C'est l'une des principales réflexions à mener aujourd'hui sur le travail à distance, François Dupuis.
Alors, c'est déjà d'ailleurs une réflexion qui avait largement commencé en ce qui concerne les populations de cadres, et un certain nombre d'entreprises avaient pris des mesures, car on voyait bien cette capacité du travail tout court à envahir, non seulement d'ailleurs la vie privée, mais par exemple quand vous preniez des cadres en formation, on voyait bien que des cadres en formation avaient deux types de travaux à effectuer, les cours qu'ils avaient en formation et le travail qui leur a été demandé, et en même temps de faire plus tard, le soir, le travail qu'ils auraient dû faire normalement dans l'entreprise. Donc, il y a eu des règles qui ont été mises en place, qui concernent, par exemple, le temps qui vous est alloué quand vous recevez un email pour y répondre. De la même façon, comme vous le savez, il y a eu des règles qui ont été mises en place dans les entreprises pour limiter l'heure de début des réunions en fin de journée. Donc vous allez dire pas de réunion qui commence à partir de 17h, etc., etc., parce que ça empiète beaucoup sur la vie privée. Alors, est-ce que le télétravail empiète plus sur la vie privée ? Personnellement, je ne le crois pas. Même s'il peut y avoir la tentation, tous les cadres dont on a parlé, non, cette tentation déjà de travailler pendant le week-end, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement répandu. Mais en même temps, si dans le télétravail, la chose qui peut être la plus impliquante et la plus vérifiable, c'est quand vous avez effectivement des réunions visioconférence ou des réunions par téléphone, ça, il est clair que ce type de choses ne se produira pas. Et je le répète encore une fois.
Il a quand même fallu créer un droit à la déconnexion prévu par la loi El Khomri de 2016 qui autorise les salariés à ne pas répondre à un mail ou à un SMS pendant son temps de repos. On peut imaginer qu'il peut y avoir des dérives assez facilement, Anne Sall.
Oui, alors c'est effectivement un gros débat en Allemagne aussi, puisque le droit du travail prévoit normalement une pause nocturne de 11 heures, donc on est censé pendant 11 heures d'affilée ne pas travailler. Donc quelqu'un qui va par exemple répondre à un mail à 23 heures le soir et qui va être à nouveau devant son ordinateur à 7 ou 8 heures le lendemain, contrevient à la loi. Ça a suscité des réactions par exemple de certaines entreprises pour dire le droit n'est plus adapté, il faut l'adapter. Et effectivement une réflexion derrière pour dire on peut peut-être concevoir le temps de travail autrement que de manière linéaire, à savoir qu'on a effectivement un bloc, par exemple, de 8 heures dans la journée et ensuite c'est terminé, mais de concevoir qu'on puisse effectivement avoir des périodes off également en journée et en contrepartie des périodes de travail le soir ou le week-end. Donc on peut tout à fait concevoir le travail autrement que ce qu'on a conçu jusque-là. La difficulté, et ça c'est évidemment un point très important, c'est qu'il n'y ait pas de dérive, c'est ce que vous venez de dire, c'est que ça ne veut pas dire non plus, du coup, non-stop et ne pas être capable, effectivement, de soi-même se déconnecter. Mais on comprend qu'on est aussi dans une conception du travail qui est en train d'évoluer à beaucoup de niveaux.
Il y a aussi un risque important d'isolement social avec le télétravail, un isolement qui empêcherait par exemple les salariés de constituer un collectif et de défendre leurs droits, François Dupuis.
Alors, c'est ce que vous dites est très vrai. Je répète ce que je disais tout à l'heure, les salariés, pas forcément sous l'angle que vous venez de donner, c'est-à-dire d'un collectif qui ne serait plus représenté parce que il aurait du mal à se constituer en tant que tel. Mais comme je le disais tout à l'heure, les salariés eux-mêmes comprennent très bien et souhaitent vraiment retrouver effectivement la sociabilité du lieu de travail. Mais la question que vous posez amène quand même à une autre considération. C'est que si le travail évolue, si les façons de travailler évoluent, ben, il faut dire que les organisations syndicales qui représentent les salariés doivent évoluer elles aussi. Et aujourd'hui, on a peut-être l'impression qu'elles n'y sont pas elles-mêmes du tout préparées. On a un syndicalisme qui, quand il existe dans les entreprises, est véritablement un syndicalisme de mobilisation sur place. Vous voyez, regardez par exemple ce qui s'est passé pendant cette période, l'exercice des droits de retrait, l'exercice de blocage des lieux de travail, tout ça c'est des formes de revendication, c'est des formes de manifestation collective qui sont liées à du présentiel. Et je suis pas bien sûr que jusque-là, les organisations syndicales aient beaucoup réfléchi sur le fait comment fait-on pour s'occuper de gens qui ont une présence extrêmement faible, voire nulle, sur le lieu de travail.
Et alors justement, comment recréer du collectif à distance selon vous, François Dupuis ? Parce qu'il faut quand même dire que tout le monde ne bénéficie pas du même capital relationnel. Pour certains, le travail représente le principal, sinon l'unique lieu de sociabilité.
Alors, vous avez bien sûr tout à fait raison quand vous dites ça, mais je voudrais aussi vous faire remarquer que ça a beaucoup évolué dans le temps. N'est-ce pas ? Il fut une époque dans laquelle, dans un pays comme la France, vous aviez des organisations qui étaient des organisations d'intégration sociale. Alors, l'Église en était une, le Parti communiste dans la région parisienne en était une autre, grande entreprise en était une troisième. Or, il se trouve que petit à petit, vu la modification des conditions du travail dans les organisations, est apparu un phénomène qui s'appelle la souffrance au travail. Je ne vais pas y revenir, on a beaucoup écrit là-dessus et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui a amené les générations nouvelles qui arrivent sur le marché du travail à avoir une toute autre, entre guillemets, pratique ou une toute autre espérance de ce que le travail peut leur apporter. Là où dans les générations, les baby-boomers et ceux qui ont suivi, on a dit aux gens, vous allez vous réaliser dans le travail, et pour certains d'entre eux, beaucoup ils l'ont fait, ben, maintenant vous avez des générations qui arrivent à 25 ans dans le travail, qui ont vu leurs parents petit à petit souffrir au travail. Si les parents sont cadres dans la région parisienne, une fois sur deux, ils auront divorcé, si bien que ces jeunes générations ont une pratique beaucoup plus instrumentale du travail que ne l'avaient leurs parents. Et par conséquent, le lieu de socialisation, comme vous dites, c'est plutôt le fait d'aller travailler pour gagner les ressources nécessaires pour vivre la vraie vie dans la communauté de son choix. La communauté de son choix, une communauté, ce que vous voulez, de voisinage, sportif, sexuel, culturel, tout ce que vous voulez.
Donc quand certains disent, comme la sociologue... Quand certains disent, pardon de vous interrompre, comme la sociologue Danielle Linhart, que les salariés risquent de perdre peut-être le sens de ce qu'ils font, de ne plus réussir à se réaliser dans le travail, vous vous dites, bah, finalement, c'était déjà le cas.
Alors, c'était déjà tout à fait en cours. Et en même temps, si vous me permettez d'insister sur ce point-là, le télétravail a aussi comme conséquence de modifier le fonctionnement des organisations. Vous voyez, dans la période que l'on vient de vivre ici, on a vécu un couple dans lequel il y avait rapidité nécessaire et télétravail. Et quand vous avez le couple, rapidité nécessaire pour prendre des décisions, parce qu'on affronte une situation qu'on n'a pas connue, il faut décider, on va acheter ça, on va acheter des masques, on va faire ceci, on va faire cela, il faut prendre des décisions extrêmement rapides. La rapidité de ces décisions à prendre était complètement contradictoire avec tous les processus bureaucratiques qui sont à l'œuvre dans les entreprises, et principalement d'ailleurs dans les entreprises françaises. Quelle a été la conséquence de cela ? C'est qu'il a fallu tourner la règle. Il a fallu ne plus s'occuper de tous ces processus bureaucratiques parce que l'urgence, elle était ailleurs. Et comme dirait un certain nombre de gens, on a fini par oublier ce qu'on appelle l'entreprise comment, c'est-à-dire celle qui passe son temps à vérifier comment vous faites les choses plutôt que de vérifier le résultat. Comme ici, il y avait un résultat obligatoire à obtenir dans l'urgence de la situation, on s'est beaucoup plus focalisé sur le résultat à obtenir plutôt que sur le comment on l'obtenait. Et ça, c'est un changement radical et positif pour les entreprises française.
Anne Sall, sur la perte de sens qui serait liée au télétravail, est-ce que vous partagez l'analyse de François Dupuis selon laquelle le travail était de toute façon devenu de plus en plus oppressant pour un nombre croissant de travailleurs ?
Eh bien, oui, je pense qu'il a tout à fait raison, en particulier dans l'optique d'une certaine culture d'entreprise française qui est d'attendre des salariés un temps de présence plus que des résultats en entreprise. C'est ce qui fait réagir l'une des personnes interviewées en disant à quel point c'est absurde et que pour lui, ce qu'il faut, c'est du temps qui soit investi, qui soit efficace, plutôt qu'effectivement des attentes uniquement en termes de présence. Donc lui, ça l'a fait effectivement fortement réagir par rapport à sa copine qui lui dit « bah, j'ai fini mon boulot ». boulot, mais en fait, je suis obligée de rester parce que je dois faire acte de présence. Et lui, il trouve que c'est débile, pour reprendre ses termes. Donc effectivement, je pense que cette période de confinement et de télétravail va aussi amener à réfléchir sur un certain mode de fonctionnement qu'on a beaucoup connu dans les entreprises françaises et qui va peut-être amener effectivement à se recentrer sur ce qui réellement est productif et efficace, et à identifier des pertes de temps qui existaient de manière absolument évidente, qui sont pointées du doigt régulièrement, et peut-être que cela pourrait même, à mon avis, redonner un certain sens au travail.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Nous sommes toujours en compagnie de François Dupuis et d'Anne Salle pour parler des limites et des bienfaits du télétravail. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une nécessité à encadrer davantage le travail à distance, François Dupuis? Un télétravail qui a déjà été encadré par les ordonnances de 2017, mais est-ce qu'il faut aller plus loin?
Alors, moi, je ne suis pas un juriste, mais je répondrai de la façon suivante. Encore une fois, nous avons, nous, toujours tendance à dire « il faut absolument réglementer, il faut absolument mettre des limites, il faut absolument fixer des normes, des procédures, etc. » Ce qui traduit le fait que nous n'avons pas confiance dans la régulation que les organisations peuvent faire elles-mêmes. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que, bien entendu, les grands cadres de l'exercice de cette nouvelle façon de travailler doivent être fixés par la loi, si loi il doit y avoir, mais ensuite, il faut absolument laisser et les salariés et les entreprises trouver les meilleurs équilibres possibles par rapport à ce que sont leurs activités. Surtout que nous avons tous souligné un point, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que la productivité obtenue par le télétravail est une productivité supérieure à celle obtenue dans le travail présentiel. Ben, les hommes et les organisations étant ce qu'elles sont, si les entreprises avaient tendance à exagérer ce qu'elles demandent aux salariés sans aucune limite, par définition, ça ferait baisser la productivité. Et les dirigeants d'entreprise sont assez intelligents pour comprendre ça, qu'ils ont intérêt à maintenir ce télétravail dans une limite où la productivité est maximale et non pas à chercher à tirer au-delà de ça. Donc, plutôt que toujours vouloir tout réglementer par la loi, autant laisser la régulation naturelle se faire.
Les syndicats veulent ouvrir une négociation pour mieux encadrer la pratique du télétravail. Est-ce qu'il faudrait, Anne Salle, tout de même, une loi pour encadrer le télétravail à l'image de ce qui existe aux Pays-Bas, qui est l'un des pays d'Europe où le télétravail est le plus répandu?
Ben, je partage l'avis de François Dupuis. Je pense qu'il faut également laisser une certaine marge de manœuvre, et que cette marge de manœuvre, elle va se réduire pour les salariés aussi si on l'encadre trop. Donc effectivement, je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. D'autant que le bilan, effectivement, de la productivité, c'est ce qu'on vient de dire, est tout à fait positif, en effet.
Donc davantage des négociations au sein des entreprises ou au sein des branches?
Oui, mais pas au niveau, pas nécessairement un cadre national allant plus loin que ce qu'il propose déjà, d'autant que en France, on a d'ores et déjà tendance à fixer des règles un peu strictes, hein. Donc je pense qu'il vaudrait mieux au contraire un petit peu plus de souplesse, en tout cas avant le confinement. Effectivement, ça a été d'ores et déjà pointé du doigt par certains salariés, que dans leurs entreprises, c'était tel jour et pas autrement, et même si on avait une panne de voiture, et ben tant pis, fallait se débrouiller. Même si l'enfant était malade, tant pis, fallait se débrouiller, bah, du coup, on posait un jour de congé. Là où en Allemagne, on avait dans beaucoup d'établissements beaucoup plus de possibilités de dire « j'ai un problème aujourd'hui, est-ce que je peux travailler de chez moi ?» Donc je pense qu'il faut un peu de souplesse également dans l'intérêt des salariés en réalité.
Mais alors, où en est cette réflexion qui est menée au sein des entreprises sur le management, la nouvelle organisation du travail, François Dupuis, afin de pouvoir répondre aux nouveaux défis du télétravail?
Alors, il y a deux axes qui sont des axes importants. Le premier, c'est l'axe du contrôle. Si vous cherchez à contrôler, il y a eu la tendance à le faire, hein, si vous cherchez à contrôler les télétravailleurs comme vous pouviez contrôler des gens dans du présentiel, vous ne réussirez pas à le faire. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est d'autant moins possible que l'intérêt du télétravail, tel qu'il est perçu par les salariés, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le temps retrouvé. Donc si vous dites, eh ben, écoutez, votre temps retrouvé, vous l'avez plus retrouvé, puisqu'on va vous fixer des périodes que l'on contrôlera régulièrement, et il y a des moyens de le faire, il y a des moyens de contrôler si les gens sont ou ne sont pas sur leur ordinateur, etc., etc. Donc ça, on ne réussira pas à le faire. Donc les modes de contrôle du travail sont des modes qui vont changer, et donc, comme je le disais tout à l'heure, être beaucoup plus axé sur le résultat du travail que sur le temps ou la façon de faire les choses. Ça, vous voyez, c'est vraiment un premier élément. Et le deuxième élément, qui est lié au premier, c'est quel type de management vous allez mettre en place. Et là, je crois qu'il y a une notion, qui est une notion extrêmement difficile en France, dans le management, comme elle est dans le reste de la société, sur laquelle, petit à petit, on va se pencher, c'est la notion de confiance. Comme vous le savez, nous sommes, ça a été montré depuis longtemps, une société de non-confiance, mais à partir du moment où vous voulez développer du télétravail, il faut que vous développiez de la confiance vis-à-vis de ceux qui le font.
Et alors, donc, par quoi ça passe?
Ah, eh bien, je vais vous le dire, à quoi ça passe? Par quoi ça passe? Et nous allons rejoindre le débat que nous avions tout à l'heure sur la loi. Pourquoi, moi, je vous disais que je n'étais pas pour une vaste loi, et voilà, parce que ça n'amènera à rien. En revanche, la définition de ce que l'on appelle les règles du jeu, c'est-à-dire on définit entre le manager, par exemple, et son équipe qui va être en télétravail, ce qu'il est possible et ce qui n'est pas possible de faire, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et ça, ça se fait très facilement sur un lieu de travail. À partir de ce moment-là, c'est simplement dans le respect de ces règles du jeu qui ont été fixées dans le cadre général du fonctionnement de l'entreprise, c'est à partir de ces règles du jeu que peut s'organiser la confiance. Pourquoi ça peut organiser la confiance? Parce que si vous avez des règles du jeu, vous réduisez l'imprévisibilité de ce que font les gens. Puisque ce qu'ils font, ils le font à l'intérieur de ces règles du jeu. Et on ne peut pas faire confiance à des gens qui sont imprévisibles. Par contre, si vous avez réduit l'imprévisibilité des gens, vous pouvez avoir des relations de confiance avec eux. Voilà comment ça risque de se passer. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, comment j'espère que ça pourrait se passer.
Et c'est une nouvelle organisation, François Dupuy, Anne Sall, qui aura un coût. C'est ce qu'explique Jean-Louis Chaussade, président du conseil d'administration du groupe Suez. On l'écoute.
Que grâce à cette crise, on est avancé plus vite que on l'aurait fait normalement. Qu'on ait découvert qu'on pouvait travailler sans voyager et sans présence physique, c'est certain. Maintenant, je pense qu'il faut être aussi extrêmement attentif. Certes, on fera peut-être des économies en termes de mètres carrés. Certes, on fera peut-être des économies en termes de kilomètres de voyage parcouru. Mais nos salariés ne voudront pas et n'accepteront pas, et ils auront raison de vivre seuls, isolés. Et donc, il faudra trouver les moyens de cette convivialité qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Et puis, il y a un deuxième aspect qui me paraît absolument clé, qui est celui de la puissance informatique de nos systèmes et de leur protection. Car si on travaille tous, j'allais dire, en télétravail, nous serons extrêmement sensibles à toute forme d'attaque, de cyberattaque. Et donc, je veux dire que on fera peut-être des économies d'un côté, mais moi, je pense qu'on en dépensera beaucoup de l'autre. Je pense que sur le télétravail, il faut être prudent.
François Dupuy, sur cette question de la confidentialité des entreprises.
Alors, si vous me permettez, je voudrais aborder deux problèmes. La question de la confidentialité est une question cruciale. Comme cela vient d'être dit, elle se pose indépendamment du télétravail, avec l'apparition de toutes les technologies, tous les hackers, tous ceux qui peuvent interférer avec les systèmes informatiques. Néanmoins, en ce qui concerne le télétravail quotidien, si j'ose m'exprimer ainsi, celui qui ne véhicule pas de données trop confidentielles, vous avez bien vu que aujourd'hui, les différents systèmes de téléconférence font leur publicité sur leur degré de discrétion. Bien, par exemple, vous allez dire, sans faire publicité pour personne, si j'utilise X, j'allais dire Z. Mais bon,
on ne nommera personne.
Oui, c'est pour pas vous mettre dans la baraque que je dis ça, mais voilà, on va se dire, c'est pas très sécurisé. Si j'utilise le système Slack, là, je suis obligé de le citer, c'est un système qui, lui, est relativement très sécurisé. Donc, au-delà du problème général de la sécurité, qui est un problème indépendant du télétravail, il y a ce problème des outils technologiques qui vont travailler et renforcer autant que faire se peut, leur confidentialité. Vous me permettez, il y a une autre question sur laquelle j'aurais aimé dire quelques mots. C'est les effets induits du télétravail sur d'autres activités. Car on est en train de prendre le télétravail en lui-même aujourd'hui. Mais ce télétravail, il a des conséquences énormes sur toutes les activités. Vous voyez, par exemple, Monsieur Chaussade le disait tout à l'heure et nous l'avions déjà abordé. Ah, on va gagner du mètre carré. Mais quand vous gagnez du mètre carré, ça veut dire que vous gagnez des gens en moins. Et quand vous gagnez des gens en moins, ça veut dire que si vous prenez l'esplanade de la Défense, vous allez avoir moins de personnes qui vont être sur l'esplanade de la Défense si vous multipliez le nombre de celles qui sont en télétravail. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, les services de nettoyage, ah mais dans ce cas-là, les restaurants, les cafés qui sont autour, ben voilà des jobs qui vont disparaître. Il y avait hier dans le New York Times un article remarquable qui disait ceci. Il y a aujourd'hui 30 millions d'Américains à peu près qui touchent des indemnités de chômage. Sur ces 30 millions d'Américains, il y a 42% des jobs qu'ils occupaient avant d'être au chômage qui n'existeront plus quand ils voudront revenir dans le monde du travail, qui auront disparu avec la crise. Et parmi les facteurs, c'est pas le seul, loin de là, tant s'en faut, qui feront disparaître un certain nombre de jobs annexes, il y a les avancées du télétravail. Et c'est important parce que nous avons toujours l'habitude de segmenter les problèmes les uns par rapport aux autres, de ne pas les voir de façon systémique, mais il faut réfléchir à cet effet sur les activités environnantes du développement du télétravail.
On pourrait même imaginer un tout nouvel aménagement du territoire en raison du déplacement des entreprises, des sièges sociaux des entreprises et des particuliers qui pourraient vouloir déménager pour pouvoir profiter, par exemple, d'un appartement plus grand en dehors de l'Île-de-France, François Dupuis.
Mais c'est tout à fait possible. Effectivement, c'est tout à fait possible que ça restructure à long terme, parce que là, on n'est pas dans des phénomènes à court terme, mais qu'à long terme, ça rende possible de nouvelles formes d'aménagement du territoire. Donc, vous avez vu d'ailleurs que jusque-là, les tentatives qu'il y a eu, et de ceux qui ont voulu aller travailler ailleurs, n'ont pas été spécialement résolues par le télétravail, elles n'ont été marginales, elles ont surtout été résolues par le TGV. C'est-à-dire, c'est le TGV qui a permis rapidement d'habiter un petit peu plus loin de Paris et d'aller néanmoins sur son lieu de travail à Paris. Bon, mais c'est probablement quelque chose qui risque de s'accélérer ou de devenir plus possible dans la mesure où on passera en télétravail. En revanche, néanmoins, le problème du déplacement restera présent parce que, comme nous l'avons dit depuis le début, rares sont ceux qui seront totalement en télétravail. Voilà. Et donc, tous ceux qui voudront à la fois combiner le télétravail et le présentiel, eh bien, ça impliquera de gérer néanmoins la question de la distance.
Anne Sall, sur ces nouvelles géographies du travail qui pourraient apparaître?
Alors, je suis tout à fait du même avis, comme on vient de le dire. De toute façon, majoritairement, le télétravail, ce sera qu'une partie des journées. Donc, de toute façon, on se rendra toujours sur son lieu de travail. Donc, il est relativement impensable qu'on aille quand même très loin. En revanche, effectivement, ça peut permettre d'envisager de s'éloigner un peu plus si on ne retourne sur son lieu de travail que une à deux journées par semaine. Mais effectivement, ça n'impliquera quand même pas des changements radicaux. Mais oui, ça c'est sûr que ça va changer la donne au niveau de la conception d'ailleurs de son propre domicile, hein, comme on vient de l'entendre. C'est évident aussi que si le domicile est amené à devenir aussi un lieu de travail durablement, cela va également changer sa perception, son aménagement, etc.
Africa, extrait du dernier album du groupe ghanéen Santrophi. Merci beaucoup Anne Sall et François Dupuis de nous avoir accompagnés depuis chez vous tout au long de cette télé-émission. Je rappelle le titre de votre dernier livre, François Dupuis, La faillite de la pensée managériale, publié au Seuil. Demain, on parlera de la grande peur du chômage en compagnie d'Alexandra Roulet et de Didier Demazière. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez la compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange.